à 40 minutes. Ouais. Donc on va refaire un peu la même chose, c'est-à-dire 40 minutes d'intervention, puis les questions, donc je ferai passer le micro. Voilà, donc je suis très heureux d'accueillir notre deuxième conférencier ce soir, que j'ai déjà présenté tout à l'heure, mais je le redis. Donc Gabriel Jiménez-Roche est professeur d'économie à l'ESC3. Il est aussi maître de conférence à Sciences Politiques à Paris et il a fait donc une thèse de doctorat en économie sur la théorie de l'entrepreneur à Paris Dauphine, après avoir fait aussi des études d'économie à Rio de Janeiro au Brésil. Voilà, et je lui laisse la parole et on peut l'applaudir.
Merci beaucoup d'être venu. Bonsoir à tous. Et bon, les sujets de ma conférence porte sur, en fait, une vision autrichienne de l'exposé keynésien sur les crises. Donc, pour qu'on puisse établir un peu un parallèle entre les deux théories, deux approches théoriques. Bah, avant de commencer avec cette comparaison, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école d'économie autrichienne, elle est éminemment une école qui fait la promotion de l'économie de marché, mais pas nécessairement à cause d'une conviction idéologique, mais c'est à cause d'une conviction fondée sur une question pragmatique. En fait, les économistes autrichiens, surtout, je parle ici de Mises, de son professeur Ben Baverk et de Hayek, ils s'est posé la question: quoi faire? Que veut-on, en fait? Veut-on produire plus? Veut-on vivre mieux? Etc. Et donc, à partir de ces questions-là, ils développaient donc les cadres théoriques pour essayer de donner une réponse adaptée. Et pourquoi donc ils arrivent à l'économie de marché? Parce qu'ils voient, en fait, que, une chose, c'est pour se poser la question, que veut-on? Donc, on voit que la plupart des gens veulent vivre mieux, veulent avoir des biens, veulent consommer, veulent avoir une maison, avoir une voiture peut-être, bien habiller ses enfants, bien nourrir ses enfants, avoir une famille, pas avoir une famille, mais pouvoir donc jouir de son capital, peu importe. Mais on voit les points communs, tous veulent plus de biens pour pouvoir satisfaire plus de besoins. C'est ça, c'est simple. Et donc, ils arrivent à la conclusion que pour arriver à cela, le mieux, étant donné l'hétérogénéité, les différences des préférences dans l'économie, il faut alors trouver, disons grossièrement, des moyennes, disons. Et ces moyennes-là, qui vont permettre aux gens concernés, c'est-à-dire les entrepreneurs, à faire des calculs et à donc établir qu'est-ce qu'il faut produire d'abord, dans quelle quantité, etc., ce sont les prix. Il faut donc que les prix soient librement déterminés. Pourquoi? Parce que cela veut dire que tous qui participent à l'économie peuvent donc montrer leur degré d'intérêt ou pas pour tel ou tel produit ou satisfaire tel ou tel besoin en proposant des prix ou allant acheter tel produit et pas un autre, etc. Et c'est ça ce qui va donc guider les calculs économiques des entrepreneurs, producteurs, et donc qui va déterminer qu'est-ce qu'on va produire dans l'économie. Une économie où les prix ne sont pas libres, c'est une économie où la population ne participe pas à ces processus. Et voilà tous les problèmes. Si la population ne participe pas à ces processus, les entrepreneurs n'ont pas des prix fiables. Ce sont des prix artificiels. Et donc, ils vont aller n'importe où, ils vont faire des gaspillages avec les ressources disponibles. C'est pour ça que Mises, Ben Baverk, Hayek, ils n'étaient pas pour une économie dirigée, que ce soit de droite ou de gauche. Je vous rappelle que Mises et Hayek, ils étaient dans leur jeunesse socialistes. Et après se pencher sur des questions économiques d'une façon plus sérieuse, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la voie à suivre. Bon, Cela est fondamental pour comprendre la différence entre keynésiens et autrichiens, parce que les keynésiens, ils ne sont pas nécessairement... Ben, c'est ça l'erreur qu'il faut éviter aujourd'hui. Très souvent, des personnes, pas nécessairement libérales, hein, elles vont considérer que les keynésiens, ce sont des étatistes, des personnes ben, presque des... Ben, allez, des rabons, des communistes, des choses comme ça. Il faut arrêter, hein. Ce n'est pas vrai. Keynes, lui-même, au départ, il était plutôt de tendance libérale. Il a changé après pour des raisons prêtes à débattre. Hein. Mais l'intérêt de lui, ce qu'il disait dans ses livres, c'était de sauver le capitalisme quand même. Hein. Et après, il y a des interprétations qui sont apparues, des interprétations de ses disciples. En fait, des keynésiens, vous avez de tout type. Hein. Vous avez des keynésiens classiques, des post-keynésiens, des néo-keynésiens, des nouveaux keynésiens, des keynésiens de la synthèse, oui. C'est, ben, de la synthèse, il n'y a rien. Hein. Mais vous avez tout type de keynésiens, ce qui montre en fait qu'ils ont des opinions différentes. Les keynésiens qui sont plus, disons, proches des marxistes, ils sont pratiquement tous morts. Hein, et on ne le voit plus. C'est-à-dire que des keynésiens de Cambridge, Angleterre, ne sont plus là. Hein. Les keynésiens qui restent aujourd'hui, c'est des personnes que vous... C'est, ce serait très ridicule d'appeler cette personne-là un étatiste avéré, je ne sais pas. Même prenons quelqu'un, par exemple, comme Paul Krugman. C'est quelqu'un qui n'est pas pour les salaires minimums, qui est virulent contre le protectionnisme, qui ne veut pas des assurances chômage. Pourtant, c'est un keynésien. Évidemment, dans d'autres domaines, il est très interventionniste. Mais c'est très difficile d'aller débattre avec des gens comme ça et commencer avec un discours « Ah, mais vous êtes un communiste ou vous êtes un fasciste ou quelque chose comme ça. » Non. Il faut être prêt, il faut être préparé. Il faut avoir bien en tête ses idées et comment il est mieux, au lieu de justement aller discuter avec ces gens de cette façon, c'est de trouver les terrains communs et dire, mais voilà, on est d'accord sur ce point-là, oui ou non, mais donc, allez, on l'applique à d'autres domaines aussi. Là, les domaines, on n'est pas d'accord. Vous voyez, si vous êtes d'accord sur ça, il faut forcément être d'accord aussi sur cet autre point-là. Faire tomber en contradiction. Et voyons, justement, ces différences entre keynésiens et autrichiens. Où commence-t-elle? Surtout, elle commence avec les cycles, non? C'était les grands débats des années 30 entre Hayek et Keynes sur quelle était la raison du cycle, pourquoi les cycles avaient lieu, etc. Tout d'abord, hein, il y a des gens qui pensent « Ah, mais Keynes a sauvé le monde dans les années 30. C'est grâce à lui qu'on a pu éliminer les problèmes laissés par la Grande Dépression. » Je reste très sceptique. Les livres de Keynes ont été publiés en 1936. Le New Deal a été appliqué en 1932. Des mesures similaires au New Deal étaient déjà appliquées par l'antécesseur de Roosevelt, par Hoover, déjà. Augmentation des dépenses gouvernementales, augmentation du nombre de fonctionnaires, etc. Tout ça a été déjà mis en place par Hoover et avant Roosevelt. Keynes arrive trop tard. 36. Ce qui a sauvé vraiment l'emploi aux États-Unis, c'est très simple. On se débarrasse des chômeurs. On les envoie mourir dans la guerre en Europe. C'est le plus simple. Et après, une guerre, une autre guerre et une autre guerre tout le temps. Bon, voyons. Les Autrichiens, comme mon éminent collègue l'a expliqué, pour eux, le cycle commence par justement les gaspillages des ressources provoqués par les crédits. Comme il a bien expliqué, l'épargne réelle, c'est de l'épargne qu'on fait et qu'on met à disposition des producteurs. Et ce qu'on met à disposition, c'est des ressources réelles, évidemment, et du temps. On donne du temps aux producteurs pour installer la capacité productive, pour préparer tous les plans de business, etc. Et après, mettre en place tout. Et donc après, rendre disponibles ces biens de consommation. les épargnants, donc ils donnent du temps aux producteurs, en fait. Avec les crédits, ça disparaît. Hein. Avec les crédits, ça disparaît. Pourquoi ? Parce qu'on ne donne pas du temps. En fait, puisque personne n'a vraiment épargné en plus, on dit cependant aux producteurs qu'ils se laissent tromper. Pourquoi ils se laissent tromper ? Parce que justement, comme je vous ai dit, les entrepreneurs, les producteurs dépendent des prix. Donc, ils dépendent d'un langage monétaire. C'est leur faiblesse en même temps. C'est leur point fort, c'est ce qui leur permet d'établir des plans de production, d'anticiper des recettes, coûts, etc., avec un même langage, le langage monétaire, un dénominateur commun. D'accord ? Ben, donc, quand ils pensent capital financier, ils pensent capital financier monétaire. Pour eux, il n'y a pas de différence entre capital épargné réel ou capital financier créé par les banques. Ça n'existe pas, cette différence-là. Ça explique énormément donc, pourquoi ils vont s'embarquer dans les cycles. Et donc, ils vont s'embarquer, ils pensent que le capital est là, parce que pour eux, il n'y a aucune différence entre capital réel et financier, mais il y a. Et le problème, c'est que ces capitaux-là, ils vont l'utiliser, ils vont les distribuer à des gens, donc à leurs salariés, ils vont embaucher plus de gens parce que c'est l'essor économique, donc ils doivent embaucher plus, produire plus, passer des plus grosses commandes, non. Et en faisant cela, l'argent est distribué. Cet argent qui n'avait pas raison d'être, en fait. Et ces gens-là commencent à dépenser. Et ils veulent consommer plus, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, comme les épargnants réels, non. Non, ils veulent plus maintenant. Et donc, les producteurs sont obligés de tricher un peu avec le temps et vont essayer de faire tout pour accélérer n'importe comment la production. Et ils vont aller partout, ils vont augmenter leur usage, disons, ils vont essayer de réactiver des usines qu'auparavant étaient abandonnées parce qu'elles ne servaient à rien. C'était une erreur de planification. Non, là, ils vont les réactiver, ils vont répéter l'erreur, par exemple. Nous allons augmenter les délocalisations parce qu'il faut trouver des travailleurs vite, fait, pas cher, parce que si on essaie de produire plus ici, on va augmenter les salaires trop vite. Non, donc on va aller là où on peut trouver moins cher, en Chine par exemple, en Inde. Et plusieurs autres facteurs qui vont contribuer à tricher le temps. Bon, c'est ça ce qui se passe en fait. On essaie de tricher avec le temps. Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, on va trouver des limites à ça. Il n'y aura pas suffisamment de capital oisif. Il n'y aura pas suffisamment d'infrastructures dans les pays où on va délocaliser. On voit aujourd'hui en Chine hein, une inflation à deux chiffres déjà. Ça ne cesse pas d'augmenter. D'accord ? C'est-à-dire, ces facteurs ont une limite. Quand cette limite arrive, comme mon collègue l'a dit, il faut alors allonger. Il faut produire plus des usines, plus des bâtiments, etc. C'est vrai, mais ça prend du temps. Mais les gens veulent consommer maintenant. Donc c'est une guerre entre, vous voyez, deux bouts là, qui veulent deux choses différentes. À un moment donné, celui qui gagne ben, fait quand même tomber l'économie, peu importe si ce sont les producteurs ou les consommateurs. Hein, parce que si les producteurs gagnent, ça ne change pas le fait que les consommateurs veulent consommer. Si les consommateurs gagnent, ben, le producteur n'aura pas de capital pour poursuivre. Donc il n'y a pas assez de ressources maintenant pour tout le monde. Les châteaux s'écroulent, on laisse des bâtiments construits à moitié. C'est ça l'explication autrichienne, en gros. Pour les keynésiens, vous avez plusieurs interprétations. Keynes, à l'origine, ça résumait tout un changement de mentalité des entrepreneurs. Les entrepreneurs, à cause de leur animal spirit, leur esprit animaux, je ne sais pas comment on peut dire, eux, ils ont un changement d'attitude. Ils pensent soudainement que peut-être dans le futur, il n'y aura pas assez de consommation. Et donc, ils se mettent à dépenser moins, à investir moins. Mais s'ils investissent moins, ils embauchent moins. Donc s'ils embauchent moins, les gens vont vraiment consommer moins. Et quand ils voient que c'était confirmé, et ils vont encore en arrière. Donc ils consomment et ils investissent encore moins. Mais c'est dans une boule de neige. Logiquement, si c'était vraiment comme ça, on devait retourner à l'âge des pierres, en fait. Il y a quelque chose qui cloche, là. Il y a un problème. Et donc, les Keynésiens, bon, oublions le problème pour le moment. Les Keynésiens, ils disent alors, bon, puisqu'il y a ces défauts, il y a une demande défaillante, parce qu'il y a une offre défaillante, il faut alors que l'État entre dans l'économie pour alors réactiver la demande ou l'offre. Hein. Vous avez aussi la supply side economics hein, qui dit que, bon, au lieu d'aider les consommateurs, il faut aider les entreprises plutôt à produire plus, pour qu'elles embauchent et donc ainsi de suite. C'est le keynésianisme à l'inverse, hein, mais c'est la même chose. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, eux, ils disent que l'État est nécessaire pour justement maintenir l'économie en équilibre, c'est-à-dire bah, la consommation que je perds de la part du secteur privé, des consommateurs, c'est-à-dire nous, hein, elle est remplie par l'État. Mais bon, mais l'État, il ne se finance pas auprès de nous avec nos impôts, en fait. Hein? C'est ça, normalement. Sinon, c'est impossible. C'est vraiment genre, je peux vous aider, mais donnez-moi votre argent, je vais vous aider. Il y a quelque chose. Mais non, mais Keynes, il était très, très vif. Hein. Il avait dit, mais justement, non. Parce que voilà le problème. On va tirer l'argent aux gens, on va renforcer les problèmes de la demande défaillante. Il faut que l'État s'endette. L'État s'endette. Donc, en fait, on ne touche pas au capital des autres parce qu'il se disait déjà. Parce qu'on se dit, non, si on travaillait avec du capital réel, c'est la même chose que si on taxait. L'État il va faire concurrence aux entreprises en s'endettant à leur place. Ben voilà, mais il sait très bien qu'il ne faut pas de capital réel. Lui, c'est pour ça que dans le keynésianisme, la réserve fractionnaire est nécessaire pour que l'État s'endette sans qu'il y ait les problèmes d'éviction, c'est-à-dire que l'État fasse concurrence aux entreprises. Donc l'État va s'endetter grâce au fait, et de façon, disons, positive pour l'économie, grâce au fait que la réserve fractionnaire est sur place. En fait, quand vous analysez les systèmes monétaires actuels, c'est un cercle vicieux où vous avez la banque centrale qui va fournir de l'argent aux banques commerciales, comme l'a dit mon collègue, d'accord, qui après va distribuer l'argent dans toute l'économie. Le problème, c'est que pour le reste de l'économie, la dette publique est un investissement, non? Quand vous ouvrez votre assurance vie, c'est ça, non? C'est un investissement. 50% de la dette française est détenue par les assurances vie. Si l'État ne paye plus sa dette, vous n'aurez plus d'assurance vie. Nous sommes maintenant otages de ce système. D'accord? Et les problèmes, c'est si, donc vous voyez, l'État, donc il lance des dettes, les gens vont acheter. Les banques, elles se financent auprès de la banque centrale, c'est vrai, mais c'est pas comme ça, hein, c'est pas, oui, s'il vous plaît, je fais la manche, j'aimerais bien vos liquidités. Non, la banque centrale, elle fait des opérations, des rachats de dettes, en fait, auprès de ces banques-là. Donc c'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Plus l'État s'endette, plus il y a de la dette que les banques commerciales peuvent disposer dans leur bilan pour échanger contre des liquidités banques centrales. Aujourd'hui, notre étalon monétaire, ce n'est pas du papier, hein. Vous êtes trompé. C'est un étalon dette. Plus de dettes disponibles, plus il y a de la monnaie fiduciaire, réelle, en circulation, en fait. C'est ça aujourd'hui les systèmes. L'État réactive donc l'économie avec de l'argent fiduciaire et donc réactive l'économie, disons. On repasse les commandes, on commence à réembaucher encore une fois. Demain, on aura le même problème. Pourquoi? Parce que le système là qui nourrit l'économie avec du crédit virtuel est toujours sur place. Donc, encore une fois, l'économie aura un problème. Non, mais l'État est toujours là pour ça. Ça, c'est la théorie keynésienne. En fait, ils ne remettent jamais en cause les institutions préalablement en place avant la crise. Pour eux, pour la théorie keynésienne, la théorie du cycle commence avec la crise. Ce qui vient avant, ce n'est pas un problème. C'était bien, c'était l'essor. Comment vous pouvez critiquer ça? L'essor, c'est bien. Le problème, c'est la crise. Pourquoi on n'a plus d'essor? Donc, il faut que l'État entre donc, et injecte de l'argent dans l'économie et pour la réactiver. C'est ça. Mais on oublie que, justement, c'était l'État qui a provoqué tout cela. Les Keynésiens, vous dites, mais l'État quand même a une grande participation de l'économie, comment est-ce possible qu'on a pu dire que, en fait, c'est des économistes de marché? Ben, voilà, parce que l'évolution de l'économie keynésienne aujourd'hui. Quand Keynes écrit son livre, donc, comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs disciples. Donc, il y a les Keynésiens de Cambridge, comme je vous ai dit, très proches des marxistes. Et après, ils seront oubliés vers les années 60. Donc, nous avons alors les Keynésiens dits de la synthèse. C'est la synthèse néoclassique et le keynésianisme. Autrement dit, vous avez des économistes qui croient au système de marché, à l'équilibre général, à la Walras. C'est le système qu'on apprend n'importe où, au lycée, dans les universités, non ? Où justement on voit que le marché c'est bien parce que bon, il arrive à l'équilibre tout seul, etc. Même s'il n'y a pas d'entrepreneur dedans, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est-à-dire, l'économie de marché, je suis très d'accord, elle est très bien, mais ce n'est pas la meilleure façon de l'expliquer. Mais bon. Alors, c'est des économistes néoclassiques qui croient à tout cela, mais qui croient que les Keynésiens ont peut-être raison. Dans certains cas, quand il y a des crises vraiment, ça prend, c'est-à-dire pour eux, l'économie va arriver, va se rééquilibrer éventuellement, mais ils disent que c'est trop tard, c'est trop lent, donc il faut que l'État entre pour accélérer les choses. Donc en fait, pour eux, c'est pas grave que l'État entre, parce qu'en fait, en entrant dans l'économie, en s'endettant, il ne fait qu'accélérer les choses qui vont arriver naturellement. Comme si cette dette-là disparaissait après. Mais bon, en fait, selon eux, l'État, c'est ce qu'il aurait dû faire, c'est quoi? Il intervient, il réactive l'économie. Une fois l'économie sur les rails, bien réactivée, il faut que l'État se retire alors de l'économie. Il laisse la place, encore une fois, au marché. Le problème, c'est que c'est assez innocent. On n'a jamais vu que l'État se retire du marché après, une fois qu'il est entré. Mais bon, parfois on le voit. Les années 70, à la fin des années 70 en Angleterre, dans les pays scandinaves aux années 90, et qui sait, peut-être en France dans 2-3 ans, si on a de la chance. Mais bon. Il faut que l'État revienne, donc il faut que l'État se retire. Et après, en se retirant, qu'est-ce qu'il fait l'État? Mais justement, il va dépenser moins, et en dépensant moins, il pourra donc avoir des surplus budgétaires et payer sa dette. C'est ce qu'ils disent. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, l'économie, disons, elle va se récupérer. Il y a toujours une croissance réelle au même temps qu'il y a la croissance fiduciaire. Il ne faut pas penser que c'est que du vent pendant les crises. On n'est pas vraiment pire aujourd'hui que ce qu'on était en 2001. Il ne faut pas penser ça. Mais on va fausser les jeux, on trompe les gens. Et franchement, ce n'est pas drôle que tous les 8 ans, 10 ans, on ait des crises comme ça, où les gens perdent leur emploi, et ils sont hyper stressés, ça arrive à des situations extrêmes pour après revenir. Non. Mais bon. Donc, comme je vous ai dit, il y a toujours une croissance réelle, même donc après on réactive l'économie. Donc vous voyez, à chaque fois l'économie s'accroît, il y a plus de personnes intégrées à l'économie, ce qui ne rend l'économie que plus vulnérable. Comme je vous ai dit, le système du crédit fiduciaire en place n'est pas éliminé, il est toujours là. Donc il va revenir quand même un jour, le problème de la crise. ce problème revient sur une économie encore plus grande. Voilà, réactiver. Donc on essaye d'essuyer les choses sans vraiment bien nettoyer. C'est comme dans les bistrots. Hein. Les bistrots, on arrive avec un torchon, hein, et on frotte la table et on pense que c'est propre. Non, mais c'est pas propre. Hein. Les torchons sont pleins de bière, de vin, etc. C'est pareil. On va essuyer les tables, hein, de l'économie avec un torchon sale. Et donc, les problèmes vont revenir. Hein. Alors, l'école autrichienne, pour elle, c'est très simple. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes comme ça. Quand mon collègue a dit qu'auparavant, il y avait des crises, c'est vrai, il y avait des crises, avant l'intervention étatique était beaucoup plus petite aussi. Hein. Mais ces crises-là étaient très localisées, en fait. Des crises locales, régionales, tout au plus. Quand vous avez, même en France, hein, quand vous aviez une crise à Lyon, au 19e siècle, Paris, ça va, hein. Après, c'était une crise à Paris, Lyon, ça allait. Hmm? Vous aviez une crise peut-être, je ne sais pas, en Russie, bon, pas très grave. Mais au fur et à mesure que l'État commence à s'immiscer de plus en plus dans l'économie, surtout s'immiscer dans les systèmes bancaires, là, on voit que ces crises qui étaient localisées ou régionales deviennent d'abord nationales. Quand il y a un problème à Paris, ben, Lyon trinque aussi. Quand il y a un problème à Lyon, ben, Paris aussi va trinquer. Après, ces problèmes commencent à être vraiment internationaux. Hmm? Et premier épisode, c'était comme les crashs de la bourse de Vienne, non? 1873, je crois, si ma mémoire... Mais, hein? Vous corrigerez peut-être après, hein? Je ne sais pas. Hein? Je ne peux pas tout savoir. Hein? Mais bon... 1873. Cette crise commence déjà alors à affecter toute l'Europe et les États-Unis même. Et après cela, vous voyez, hein, vous avez eu des crises, déjà des crises aux États-Unis, crise de la chute de la banque Barings, 1891-12. Ça affecte toute l'Europe. Ben, il y a eu trois banques centrales qui ont dû s'unir. Les États-Unis n'avaient pas de banque centrale vraiment, donc c'était John Pierpont Morgan qui a dû aider un peu. Il y avait aussi donc la banque Rothschild et la banque de France qui ont envoyé de l'argent à la banque d'Angleterre pour sauver la banque Barings. Après, en 1907, crise aux États-Unis, pareil. Et finalement, 1929, la grosse crise, non, 40% de chômage parfois dans certains pays. Etc. Donc vous voyez, à chaque fois, l'économie devient plus grande, l'intervention, les degrés d'intervention de l'État deviennent plus grands, les crises, c'est impossible. Aujourd'hui, même des pays qui ne sont pas aussi intégrés que ça dans les jeux de commerce international sont très très fragiles aux fluctuations économique dans d'autres pays. Les Autrichiens disent il faut arrêter. Les problèmes, c'est justement que cette dette, cette intervention de l'État, elle est possible uniquement parce qu'il y a derrière ces financements fiduciaires, et ces financements fiduciaires forcément vont provoquer tous ces problèmes, peu importe qui reçoit l'argent d'abord, parce que l'argent, elle est redistribuée quand on dépense. Donc, peu importe si on donne cet argent aux producteurs ou aux consommateurs, les consommateurs vont dépenser cet argent, dépensant cet argent dans des produits, c'est-à-dire producteurs. Donc, à un moment donné, on aura toujours le même problème. Hein. Il va commencer dans un point ou dans un autre point. Les grands problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Keynésiens qui ont adopté un discours très proche des Autrichiens. C'est des post-keynésiens, donc peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'un certain Minsky. Et il y a aussi des keynésiens qui, inspirés par Minsky, ont créé aussi des théories comportementalistes de la finance. Notre dernier prix Nobel, par exemple. Deux d'entre eux, bon, pas Fama, mais l'autre, je ne me souviens pas exactement son nom. Schiller, tout à fait, merci. Et cette théorie, en fait, essaie de mathématiser un peu l'histoire de Keynes, non, sur les esprits animaux. Et donc, on explique là, par exemple, la théorie financière du suiveur, des suiveurs, par exemple. Dans les marchés financiers, vous avez quelques investisseurs qui ont de bonnes connaissances du marché, etc., et qui donnent, par exemple, leurs opinions ou lancent des stratégies, de fausses stratégies à la plus grande partie des investisseurs et qui tombent dans le piège. Et donc, en fait, avec un comportement comme comme un troupeau, ils vont suivre ces conseils ou alors même des tendances massivement, mais après, rien ne se justifie. Ce qui est très bien, c'est qu'il n'explique jamais pourquoi ça ne se justifie pas. Il lance comme ça, ça ne se justifie pas. D'accord, mais pourquoi ? Quand vous vous intéressez au pourquoi, vous arrivez à l'histoire autrichienne. C'est ça les problèmes. Pourquoi ? Keynes a dit, les problèmes, c'est le pessimisme des entrepreneurs. Ayons la bonne attitude. Il faut penser positif. Si on pense positif, on n'aura jamais des crises. C'est toujours ça. Non, il faut croire. On va arriver à l'inversion de la courbe du chômage. Il faut penser positif. Ça va arriver. Non. Pourquoi ça n'arrive pas ? Il y a une raison pour laquelle ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que on joue avec du crédit, du capital qui n'est pas là. On essaie de réactiver réellement une économie avec un crédit qui n'est pas réel. Ça arrive, je vous ai dit, non, on essaie de tricher le temps, etc. Oui, parfois, vous pouvez avoir des gens qui vont arriver à finir leurs investissements. C'est de la croissance réelle, ils arrivent quand même. Et voilà, encore, ça ne fait que étendre les choses dans le temps. Peut-être même inciter les gens à commettre encore plus d'erreurs. Par exemple, si moi j'étais au tout début du cycle, au tout début de l'essor, j'ai construit un hôtel en Andalousie, ça marche très bien, évidemment, j'étais au tout début. Après, les autres vont commencer, ah mais oui, il faut entrer. Parce que de toute façon, il y a tellement de capital, et ils veulent savoir où mettre ce capital pour gagner de l'argent, et gagner de l'argent vite. Ça, c'est aussi quelque chose de typique du cycle provoqué par des politiques keynésiennes, que justement, plus il y a ce capital, plus, donc justement, il y a une concurrence entre investisseurs, consommateurs, etc. On veut avoir les choses vite, investir vite. Et on ne va plus penser à des investissements de long terme, comme un bon père de famille ou mère de famille, pourquoi pas, ou les deux, ou même un enfant de famille, pourquoi pas. Non, on va passer à l'attitude, ah non, il faut faire de l'argent vite, il faut faire de l'argent vite, j'investis ici, 2 mois après je sors, j'y vais, etc. Et voilà. L'immobilier, c'est parfait, j'achète en janvier, en décembre, à 30% en plus. C'est pas possible ça. Vous vous rendez compte? Regardez un peu la vie réelle, mais s'il vous plaît, regardez les chiffres. Est-ce qu'il y a une croissance populationnelle qui suit? Est-ce qu'il y a une croissance même des produits qui suit cette croissance dans la consommation des dépenses? Vous allez voir très vite que non. Peut-être qu'il y a une croissance, oui, 5%, mais après vous voyez, le monde entier a une moyenne de 15%. Non. Les Keynésiens, aujourd'hui, chez Minsky, ils donnent pratiquement la même histoire que les Autrichiens. Les banques créent du crédit, ces crédits sont mal utilisés, gaspillés par les entrepreneurs, etc. C'est la même histoire. Après, à un moment donné, il dit, et voilà, comme mon collègue a dit, Minsky le dit aussi, les entrepreneurs commencent à s'embarquer dans des projets de plus en plus risqués. Mais n'explique pas pourquoi ils sont risqués. Les Autrichiens expliquent pourquoi ils sont risqués. Ils sont risqués parce que justement, il y a trop de concurrence pour peu de ressources. Donc nous ne savons pas si c'est moi, l'investisseur qui choisit d'investir dans des hôtels en Andalousie, qui va gagner de l'argent, qui va survivre, ou si c'est un autre. Ces risques-là, cette incertitude, augmente de plus en plus. Plus on crée du crédit fiduciaire, plus il y aura de la concurrence entre investisseurs, entre consommateurs, et plus le monde sera risqué. Puisque, justement, je parlais, on essayait de tricher le temps. Je vais délocaliser. En délocalisant, les prix baissent, non ? Les coûts de production vont baisser. Oui, mais en même temps, vous avez les consommateurs qui n'arrêtent pas de consommer plus. Donc, du coup, je souffre cette pression. À un moment donné, la délocalisation n'est pas suffisante pour produire plus vite. Je dois commencer à augmenter les salaires. Donc, vous voyez la volatilité que ça provoque. Dans une année, vous pouvez avoir des volatilités, des variations de 80% dans le marché de matières premières. Hein. 80%. C'est énorme. Parfois, j'arrivais, je découvrais un nouveau marché, j'y allais, les prix baissaient. Mais tout le monde après découvrait, parce que tout le monde avait le capital pour y aller. Hein. On produisait du crédit. Donc, c'est simple. Ah, mon concurrent a découvert des nouvelles mines en Inde, je ne sais pas. Et alors, bon, c'est facile, je vais à la banque, je dis à la banque, j'aimerais bien un crédit, vous avez quoi ? Écoutez, j'ai mon projet, vous voyez les marchés aujourd'hui, 30% de croissance, je ne sais pas, j'aurai l'argent qui va entrer. Le banquier dit, c'est vrai, je donne. Tout le monde fait pareil. Pourquoi les banquiers, ils ne sont pas dans un complot ou quelque chose comme ça ? Ce sont des entrepreneurs comme tout le monde. Et ils veulent faire de l'argent aussi. Et on les autorise à faire de l'argent en créant du crédit fiduciaire. Si je vous autorisais à faire la même chose, vous auriez fait la même chose. Moi-même, j'aurais fait. Mais oui, attendez. Imaginez, je commence avec 1000, après je transforme en 10 000. Et en plus, je vous charge des intérêts. C'est le monde rêvé. Mais bien sûr qu'on va le faire, même si je sais que ça va exploser après. Parce que je vais me dire, mais moi, je vais survivre. Ça, l'entrepreneur, non, l'entrepreneur pense qu'il est meilleur que les autres, quand même. Et c'est bien, mais quand on joue avec des choses qui ne sont pas vraies, on ne sait pas si ça va être bien. Et du coup, c'est ça, c'est-à-dire, puisque la banque me donne les crédits, et tout le monde pense en termes de monnaie, et donc mon crédit bancaire est aussi bon que du crédit réel que quelqu'un a épargné, etc., Je vais en Chine, je vais en Inde, là, concurrencer l'autre qui a découvert la mine. Donc les prix qui avaient baissé, ils augmentent, encore une fois. Mais tout le monde, pourquoi après, pourquoi on arrive à renouveler des crédits revolving, ou des renouvellements, des renégociations de crédits pour avoir encore plus de temps à payer ses dettes, etc. Pourquoi ça a eu lieu pendant les crises, pendant l'essor économique? C'est simple, parce que quand la banque, j'allais à la banque pour demander la renégociation de mon hypothèque, par exemple, ou de ma ligne de crédit pour mon entreprise, j'arrivais avec les livres, la banque dit, quand même, monsieur Jiménez, vous êtes assez endetté. Et je dis, oui, mais attention, regardez bien, mes actifs, j'ai de l'immobilier, j'ai des actions, j'ai tout, etc. les banquiers disent, c'est vrai quand même. C'est pas de la dette, c'est du levier. C'est génial, c'est plus de la dette, c'est du levier, c'est-à-dire c'est hyper bien fait. Oui, mais si c'est pas réel après, on verra quoi. Oui, ça sera plein de leviers après. On n'aura aucun en fait. On va arriver après quand la crise arrive, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Les gens arrivent avec leurs immeubles. Ah oui, je vais solder ma dette. Non, mais je vous dois combien ? 1 million. C'est le prix de ma maison. Ah non, votre maison, ça vaut 100 000. Ah, mais on m'avait dit, non. Ça, c'est l'histoire keynésienne. C'est-à-dire, ils vous disent certaines choses qui sont quand même vraies. L'histoire de Minsky, elle est vraie, parce que c'est pratiquement la même que celle des Autrichiens. Mais ils oublient toujours les détails. C'est-à-dire, oui, il y a une bulle. Les Autrichiens disent, oui, il y aura une bulle. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas assez de ressources dans certains marchés et l'argent se concentre surtout sur certains marchés. Lesquels, par exemple ? Les marchés qu'on trouve justement les plus sûrs. L'immobilier, par exemple. Vous posez la question. Il y a l'or, il y a le dollar, il y a les actions. Rien ne vaut la pierre, non ? Et allez, vous achetez la pierre. Et après, la pierre perd 30%. Il n'y a pas d'investissement magique. Hein. Première chose, hein. Il n'y a pas d'investissement magique. Vous pouvez investir aujourd'hui dans l'or. À un moment donné, il va perdre de valeur. Vous pouvez faire la même chose pour l'immobilier. Pareil, pour les dollars, pour les actions. Le problème, c'est justement, on ne pense plus à diversifier dans ces conditions-là. Parce qu'on commence à regarder que dans certains marchés, on gagne tellement plus que dans d'autres. Pourquoi je vais diversifier pour gagner 10% quand je peux aller dans un marché spécifique, mettre tout mon argent là-dedans et gagner 50%? Les Autrichiens expliquent tout, tout est bien expliqué. Les bulles ont lieu parce que l'argent va se concentrer dans certains marchés, pas d'autres. Les Keynésiens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent tout simplement, c'est pas possible ça. Mais il y a des prix qui ne se justifient pas. Et pourquoi pas? Vous savez quelle est l'explication de Schiller? Il vous met un graphique historique et il vous dit, ben vous voyez, les prix de l'immobilier aujourd'hui, il est 50% plus élevé qu'il y a 30 ans. Oui, et alors? Et bien voilà, ça ne se justifie pas, mais on ne sait jamais. Même si on n'avait pas ces systèmes de crédit fiduciaire, on peut arriver à voir ces genres de situations, parce que les gens, soudainement, choisissent vraiment un marché spécifique, mais ils ont de quoi vraiment justifier leurs achats. Mais là, il n'y a pas, parce que, et c'est ça le pire, que dans l'histoire de la... de l'essor économique nourri au crédit fiduciaire, tous les marchés sont affectés comme ça. Vous n'avez pas un autre marché où vous échappez, en fait. Vous ne savez pas qui va survivre. Vous ne savez pas si vous êtes vraiment les mecs qui vont rester, oui, je vais investir, là, et c'est moi qui va survivre. Vous ne pouvez pas le savoir. Est-ce que ce seront ceux qui se sont endettés? Parfois pas. Non, si j'ai choisi de m'endetter pour flexibiliser ma production. Donc, si j'ai une structure productive flexible, c'est-à-dire si je peux bouger d'un marché à l'autre au cas où, probablement j'ai plus de chances de survivre que d'autres qui n'ont pas fait la même chose. Je me suis endetté. Est-ce que quelqu'un qui ne s'endette pas va survivre? Pas nécessairement, il peut aussi faire faillite avec la crise. On s'est dit, oui, mais il ne s'est pas endetté. Oui, mais si justement, il était dans un marché qu'au moment de la crise va être délaissé pour d'autres marchés plus, jugés plus importants, ben, il va faire faillite aussi. C'est ça la grande injustice du cycle, en fait. C'est que peut-être avant le cycle, vous étiez très bien, parce que tout était en ordre, mais avec les cycles, il y aura les réajustements, la liquidation de l'économie, et vous vous trouviez bien avant, et là, vous découvrez que vous n'êtes pas bien. Vous allez faire faillite. C'est ça. Chez les Keynésiens, ils vont vous donner des recettes, miracles, peut-être on va survivre, oui, si on fait ceci, si on fait cela. Mais on ne peut pas le savoir. Peut-être la recette miracle, si vous voulez, c'est flexibilité, et trouver une demande inélastique, c'est-à-dire une demande qui ne varie presque pas, peu importe les conditions de l'économie. Par exemple, vous produisez de la viande. La viande, ça va, on aura toujours besoin, soit pour des bistecs, soit pour du cornet de bœuf. Mais le problème, c'est quand vous êtes entré, quand vous avez commencé vos investissements, quand vous vous êtes débarrassé, quand vous avez justement entré, établit votre business et quand vous avez eu une structure d'endettement et un trait d'argent vraiment soutenable, fiable, etc., qui peut résister à la crise. Ça, les grands problèmes. Hein. Et ça, les Keynésiens ne vont jamais vous expliquer parce qu'ils vous donnent, ils vous lancent des explications parfois très intéressantes hein, qui peuvent séduire. Mais la question, c'est que justement, derrière, il faut creuser, il faut essayer de découvrir, oui, mais comment vous justifiez cette position, etc. Et là, vous arrivez, et toujours l'histoire, toujours qui donne sustentation à l'économie, c'est du capital réel, des biens, du travail, etc. S'il n'y a pas vraiment, si l'économie ne s'est pas réarrangée pour essayer de produire plus de ça, ce n'est pas ce qu'on aura. Merci beaucoup. Et maintenant, aux questions.
Merci, merci beaucoup, Gabriel. Questions ?
Qu'aurait proposé l'économie autrichienne si elle avait été à la même position que Keynes, à la même période historique, pour la gestion du monde, on va dire ?
Oui. Peut-être je ne ferai pas avec les mêmes discours qui a été fait par Hayek à l'époque. Je crois, en fait, des économistes comme Hayek, Mises, ou même Lord Robbins à l'époque, ils ne voulaient pas faire des compromis. Et donc, ils se sont dit, non, c'est un problème. En fait, de toute façon, ils pensaient que c'était une crise comme les autres au départ. Et donc, ils se sont dit, ne vous inquiétez pas, on laisse l'économie se liquider tranquillement, naturellement, tout va aller. Ils ne se sont pas attaqués au même temps, plus explicitement, au fait que l'État, justement, sous Hoover, aux États-Unis, avait déjà commencé un New Deal. Et donc, ils ne se sont pas dit, non, mais arrêtez, mais vous allez rendre les choses encore pires. Et voilà les problèmes. Cependant, je crois que peut-être j'accepterais des politiques et des stabilisations au départ, mais suivi tout de suite des réformes. Mais comme je vous ai dit, quand l'État est entré une fois, est-ce qu'il sort après ?
Oui, bonsoir. Je suis un entrepreneur, je ne suis pas un économiste. Et ce que vous avez dit et ce qu'a dit le conférencier d'avant, c'est tout à fait intéressant, convaincant. Mais il y a un élément qu'en tant qu'entrepreneur, je rencontre tous les jours et qui n'a pas été exposé, c'est la force, la violence. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai bien compris qu'on fabriquait de la fausse monnaie. Très bien. Mais qui va aller dire aux fabricants de fausse monnaie, vous fabriquez de la fausse monnaie, voilà la sanction. Tant qu'il n'y a pas la sanction, si moi on vient chez moi me voler mes affaires, tant qu'il n'y a pas les flics qui viennent choper le voleur, j'ai plus mes affaires et le voleur il a mes affaires. Et ça, je n'ai pas compris la solution qu'apporterait l'école autrichienne pour qu'il n'y ait pas cette violence, parce que l'éthique c'est bien à condition qu'on la respecte. Donc si vous voulez, le vrai problème en fait, c'est que moi je rencontre tous les jours, c'est la violence. Moi à la fin de ma vie, le fils qui est venu m'a tout pris. C'est la violence. Je l'ai pu, l'a pris. Bon. Donc, si vous voulez, ça, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, en fait, les économistes autrichiens et même des sympathisants ailleurs, donc, ils dénoncent les systèmes, mais de façon continue. Par exemple, le Mises Institute aux États-Unis, c'est accessible par tout le monde. Donc, ils annoncent. Il y a même d'autres économistes qui ont été liés avec la Fed qui ont attaqué les systèmes. Mais le problème, c'est que, un, il y a déjà des intérêts des personnes qui sont dans les systèmes. Par exemple, les économistes de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne, etc., qui ne vont jamais, justement, cracher sur la soupe. Ça, c'est un. Deux, il y a des entrepreneurs aussi qui aiment les systèmes. Par exemple, ils vont se dire, mais je ne peux pas produire sans crédit. Mais personne n'a dit d'éliminer le crédit. C'est de les rendre réels, quelque chose de fiable, concret. Et ils vont vous dire, non, mais la banque, les crédits, c'est du crédit. Encore, ils sont dans l'illusion du capital financier, que c'est de la monétaire, que ça veut dire forcément du capital réel. Et les problèmes, c'est que ces systèmes... il y a un économiste autrichien, Huerta de Soto, il a écrit un livre sur l'entrepreneuriat. Il a écrit un gros livre sur les cycles, la banque, etc. Et il a écrit aussi un livre plus petit sur l'entrepreneur et l'intervention de l'État. Et il explique dans ces livres-là que justement, plus l'État intervient, plus l'économie, certains segments de l'économie pensent devenir dépendants de l'État, et leur pensée, leur attitude même est corrompue, devient corrompue en fait. Ils se disent... Non, mais l'État, c'est bien, les subsides, ils oublient que les subsides, il faut payer avec des impôts sur quelqu'un d'autre. Les crédits de les banques, mais c'est bien, et vous imaginez, si on arrête ça, etc. Oui, et donc, nous sommes pris en otage, et nous ne savons même pas, parfois. Et je crois que ça, c'est le problème. Même si les gens dénoncent, Les jeunes ne veulent pas entendre. Ça, c'est le pire, en fait. Les jeunes ne veulent pas entendre.
Oui. Bonsoir. On peut comprendre pourquoi les politiciens sont plutôt néo-keynésiens ou keynésiens de nature. Ça permet de justifier leur omniprésence. On peut comprendre aussi pourquoi les entrepreneurs sont d'accord pour bénéficier de cette fausse monnaie. Mais les économistes, pourquoi est-ce que l'école autrichienne en économie est si minoritaire alors que c'est une question de bon sens à vous écouter, à écouter votre collègue avant vous. Donc pourquoi êtes-vous si minoritaire?
Alors, bon, après on entre dans la sociologie académique. Déjà une chose, je vais essayer de donner les explications les plus pragmatiques possibles. Les plus grands employeurs d'économistes dans le monde, c'est l'État. La Fed emploie plus d'économistes que tous les départements d'économie des universités américaines. Je trouve, probablement, en Europe, ce n'est pas très différent. Les économistes, comme beaucoup de professionnels, ils aiment beaucoup quand même les lumières de la célébrité, etc., hein, comme tout le monde. Et c'est plus facile d'aller dans la tendance du système que d'aller à l'encontre. Surtout parce que justement, cette grande majorité des gens qui sont dans le système, ils n'hésiteront pas à dire que l'autre a tort. Ça, c'est les explications les plus pragmatiques que je peux vous donner. Après, il y a d'autres explications, d'autres ordres, des disputes personnelles peut-être, qui peuvent influencer, je crois qu'à minima quand même, hein, mais qui peuvent expliquer cela. Mais aux États-Unis, elle est de plus en plus présente quand même. Et il y a plusieurs centres qui font la promotion de l'école autrichienne avec plus ou moins d'enthousiasme. Vous avez le Mises Institute, c'est 100% autrichien. Vous avez aussi le George Mason University, le Mercatus Center, ils sont très autrichiens. Et il y a des économistes là-dedans qui sont entendus dans la grande presse. Donc, vous avez quand même de plus en plus de voix qui essayent de faire entendre le message autrichien. En Europe aussi, en Angleterre, de temps en temps, il y a des gens qui arrivent à s'exprimer. En France, franchement, il y a 10 ans, je ne serais pas ici. Donc, je crois quand même... Petit à petit, je crois. Les questions, c'est que le plus facile pour les gens sortir de l'illusion de que ces systèmes-là peuvent marcher, c'est quand ils voient de plus en plus que non, quand ils se rendent compte tout seuls. Et c'est ça ce qui est arrivé ces derniers temps. Jusqu'aux années 80, ce n'était pas très évident. Ce n'était pas très évident encore, mais là, aujourd'hui, les gens se rendent compte de plus en plus et tout seuls. Que les problèmes du système est un problème de monnaie, de crédit qui n'est pas là, etc. Et après, ils cherchent l'information tout seul. Et je crois que c'est ça peut-être qui va marquer, qui va être le point d'inflexion éventuellement.
Bonsoir. Bonsoir. Avant de vous poser ma question, j'ai une autre petite préliminaire. Est-ce que pour l'école autrichienne, les crises viennent uniquement de la création monétaire?
Les crises, hein?
Oui.
Non. Il y a des Autrichiens, surtout Guido Hülsmann, par exemple, qui est professeur à Angers, et il admet très bien que les crises ne se résument pas uniquement aux crises dites bancaires, hein, ou bancaires ou financières, en fait. Il y a d'autres crises qui peuvent avoir lieu sans avoir nécessairement un rapport avec les systèmes de réserves fractionnaires. Par exemple, on peut avoir des crises provoquées par des réglementations, justement. Des crises peuvent arriver aussi naturelles, par exemple, un tremblement de terre, des choses comme ça. La question, c'est quelles sont les crises provoquées par des êtres humains, hein, un peu comme le réchauffement climatique, non? Les plus souvent observées, ce sont des crises d'origine bancaire, financière, en fait.
Comme il y a l'incertitude dans l'économie, il y a beaucoup de crises qui pourraient être liées à mauvaise anticipation. Et est-ce que l'État ne devrait pas justement intervenir pour inciter les agents et,
Mais justement, c'est l'histoire que j'ai racontée. C'est-à-dire, il peut entrer. Il peut entrer, il va entrer, il va justement montrer la voie, hein, la bonne voie aux gens. Mais ce n'est pas gratuit, hein. Comment il se finance pour montrer la bonne voie? Comment se finance-t-il pour aller financer les gens pour... Non, c'est ça la bonne voie à prendre. Je vais vous donner de l'argent même. Allez, hein, c'est justement maintenant les formations d'entrepreneuriat qu'on peut trouver financées par l'État, etc. Mais encore, vous n'éliminez pas les problèmes de l'endettement. Et derrière ces problèmes de l'endettement, vous avez quoi? Mais toujours le même système qui a provoqué la crise. Donc oui, vous pouvez le faire, vous allez réactiver les choses momentanément, mais cela reviendra avec plus de force après.
Oui, s'il vous plaît, une petite question à propos de Keynes et du fait que vous le considériez comme un libéral. Vous n'avez pas peur de diffuser une certaine confusion en disant qu'il ait pu être qu'un interventionniste, finalement, comme Keynes, ait pu être libéral?
Alors, je n'ai pas dit qu'il a été un libéral jusqu'à la fin de sa vie. J'ai dit qu'au départ, il était un libéral et qu'en 1936, donc déjà un peu avant, il a un changement d'attitude, il devient plus interventionniste. Cependant, Keynes n'a jamais été pour une socialisation de l'économie. Il était pour un système, une économie de marché, de la même façon qu'un Paul Krugman, qui est très interventionniste dans beaucoup de domaines. Par exemple, il est tout à fait contre les salaires minimums. Tout à fait, non. Mais c'est des gens que, par exemple, moi, ce que je veux pointer, c'est que les gens, quand ils vont, par exemple, débattre avec ces personnes, ils ont la mauvaise attitude de les attaquer pratiquement ad hominem, d'accord? Quand en réalité, vous attaquez quelqu'un qui a des points communs avec vous dans certains domaines, et les autres savent ça. Les publics, il y a beaucoup de, par exemple, les publics qui lisent Paul Krugman dans le New York Times, ils savent quand même qu'il est contre certaines interventions, etc. Et donc, si moi j'arrive, je les traite des communistes, par exemple, et ils vont dire que je ne suis pas sérieux. C'est un problème des stratégies de communication. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas passer par quelqu'un de pas sérieux. Je dois garder quand même cette image d'être sérieux, de connaître l'adversaire et de ne pas lancer des accusations comme ça dans l'air. Voilà.
Est-ce que le succès de Keynes n'est pas dû à quand même à un certain cynisme de sa part qui peut trouver quand même quelque écho? Par exemple, l'euthanasie du rentier, c'est une conception qui peut plaire à beaucoup.
Ah, oui.
Elle n'est pas loin de Dostoïevski dans Les Bas-Fonds, quand on veut tuer la vieille parce qu'elle a de l'argent et qu'on pourrait faire autre chose avec cet argent. Il y a quand même cette dimension chez le personnage qui peut séduire certains hommes d'État.
Tout à fait. En fait, c'était quelqu'un qui savait très bien communiquer et qui savait, en fait, qui comprenait le public. Et Keynes, justement, l'exemple le plus extrême de ce savoir-faire, c'était le préface de l'édition allemande de la théorie générale, où Keynes dit que toute sa théorie était les mieux appliquée à une économie comme celle de l'Allemagne en 1936. Vous savez qui était au pouvoir en 1936 en Allemagne. Donc, je réponds d'abord et après à monsieur.
Oui, okay. Vous nous avez rappelé les grandes distinctions entre la théorie keynésienne et la théorie autrichienne. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la loi de C et de leurs différentes perceptions en fait de la loi de C?
Ouh, c'est tout en cours ça. Mais bon, je vais essayer d'aller vite au moins pour faire les distinguos entre l'interprétation autrichienne et l'interprétation keynésienne. Selon les Autrichiens, c'est l'interprétation, c'est ce qu'il dit que c'est dans son chapitre 15 du traité d'économie politique. Je vous donne même le chapitre pour aller vérifier après. Il dit que les marchandises s'échangent contre des marchandises, ce qui implique quoi? Que dans une économie de marché, comme je dois produire pour les autres, je dois offrir quelque chose en échange. Et que de toute façon, toute consommation effective, c'est-à-dire utiliser les biens, implique que ces biens doivent être produits préalablement. Donc, on peut résumer la loi de Say, version autrichienne, comme ça. L'offre d'un produit crée de la demande pour un autre produit. Les Keynésiens, ils ont fait un résumé incroyable. Ils se sont dit, ouais, voilà, ce que Say dit, c'est très simple. Moi, quand j'offre, je produis, j'embauche des gens, je fais passer des commandes, donc ça veut dire que ce sont mes consommateurs. Donc, offre égale à demande. L'offre crée sa propre demande. Bah, et les Keynésiens aujourd'hui même, ils vont vous donner des exemples que je sais qu'ils connaissent très bien, nos étudiants aujourd'hui, les élèves. Hein, les salaires d'efficience chez Henry Ford, non? Et ils vont vous dire, ah mais oui, voilà l'exemple de la loi de Say à la Keynes. Hein, j'augmente les salaires de mes employés, ils vont acheter plus de forté. Bah, écoutez, ça aurait été incroyable. Je dépends uniquement de mes employés pour survivre. Donc Peugeot ne serait pas en faillite. Non, s'il vous plaît. En fait, ces salaires d'efficience, c'est justement ça, efficience. C'est-à-dire, j'augmentais les salaires pour qu'ils produisent plus efficacement, mais pas nécessairement parce qu'ils vont m'acheter plus. Encore, c'est Henry Ford lui-même qui avait dit ça, qu'ils allaient consommer plus, mais c'est des abus de communication, en fait. Hein. Mais voilà, en fait, la loi de Say keynésienne n'est rien qu'une mauvaise interprétation, un sot. C'est-à-dire, mon offre ne crée pas ma propre demande, mon offre crée une demande pour un autre produit à sa valeur de marché, en plus. Ce qui expliquerait pourquoi, quand je produis beaucoup, je n'arrive pas. C'est simple, parce que la valeur de marché de mon produit est très faible, parce que personne ne veut acheter. Donc, voilà. Oui, monsieur avait une question sur l'euro, c'est-à-dire... Alors, bon, il y a eu un débat récent chez des Autrichiens, justement. Il y avait Wirt Wessot, encore une fois, qui a lancé un article. Lui dit que l'euro, malgré tout, c'est bien. Pourquoi il a dit ça? Et c'est peut-être, il a peut-être raison. Moi, je trouve que l'argument n'est pas mauvais. Mais bon, après, c'est tout un débat pour savoir si c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Selon lui, il dit que grâce à l'euro, quand même, nous ne sommes pas allés à une dévaluation sauvage qui frôle l'hyperinflation, par exemple, ou des comportements irresponsables comme ceux qui existaient aux années 30, justement, juste après la grande crise, quand la politique de beggar thy neighbor, okay, c'est-à-dire quand on allait justement frapper à la porte du voisin pour demander de l'aide, c'est-à-dire on dévaluait la monnaie pour exporter plus. Et il dit que justement grâce à l'euro, qui avait des règles communes qu'on a essayé de respecter, on n'a pas tout respecté, hein, mais bon, on a respecté la plupart quand même, nous ne sommes pas allés donc justement dans cette situation de sauvagerie monétaire entre pays. Bon, ça, si on suppose que les pays allaient faire vraiment ça. Et probablement des pays comme l'Autriche, ou la Finlande, ils pensent qu'ils ne feraient pas ça et que justement, il faudrait sortir de l'euro pour amener une politique monétaire saine. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est vrai, si c'est pour adopter une politique monétaire saine, c'est mieux de sortir de l'euro. Mais si en fait le pays demande une sortie de l'euro pour adopter une politique irresponsable, bah, mieux vaut rester. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui en France, ceux qui proposent un abandon de l'euro souhaitent la voie responsable. Ce n'est pas du tout ni à gauche ni à droite. Hein. Ils veulent adopter plutôt une position de sauvagerie monétaire. Hein.
Merci. Alors, une dernière question.
Oui, concrètement, à quoi devrait être idéalement réduit le rôle de l'État ?
Ah bon, ça dépend à qui vous posez la question. À l'école autrichienne, même dans l'école autrichienne, il y a plusieurs positions. Bon, en général, ils disent, d'accord, ils sont tous d'accord, au moins pour dire que l'État doit sortir du système monétaire, ça c'est clair. Et ils disent aussi que l'État doit intervenir le moins possible avec les prix de marché. Après, certains arrivent à d'autres conclusions et disent que ben, justement pour arriver à cette situation, il faut abolir l'État tout de suite. D'autres vous disent que non, il faut revenir à l'État qui garde tout simplement les fonctions et voilà, tout à fait, régaliennes, de sécurité, bon, peut-être justice, etc. D'autres qui acceptent un peu une situation intermédiaire avec encore... par exemple, des passes éducation, donc on va privatiser les écoles, etc., mais vous êtes quand même subventionné par l'État. Il y a une immense diversité quand même chez les Autrichiens. Hein. Les Autrichiens, ils ne sont pas tous des anarcho-capitalistes, comme on peut dire. Hein. Il y a Autrichiens de tout type, hein. Mais ils ne sont certainement pas partisans de l'interventionnisme à outrance. Hein.
Bien, merci beaucoup à nos deux conférenciers. Voilà, vous pouvez rester pour parler un petit peu avec eux. Hein, on a jusqu'à 10h. À 10h pile, on ferme tout. Donc, il reste encore un quart d'heure. Si vous voulez parler avec eux, vous pouvez venir. Vous pouvez consulter les bouquins ici. Il y a même des livres gratuits, comme celui-ci. Bon, il est en anglais, mais... Voilà, merci à vous. Bonne soirée.
It's the animal spirits. John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom, 1929, the big crash. We didn't bounce back, economy's in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery, that's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice real simple, who's aggregate demand? C-I-G, all together gets to Y. Keep that total low and watch the economy fly.
We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play ball interest rates.
It's the animal spirit. You see, it's all about spending. Hear the register cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter the reason. We need more government spending. Now it's stimulus season. So forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction.
option. That's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never lift, because business is driven by the animal spirits, the bull and the bear, and there's reasons to fear its effects on capital investment, income, and growth. That's why the state should fill the gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally corrupt. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth. The multiplier driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money suck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar now that you know the score. My general theory's made quite an impression. Revolution. I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking the bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now.
We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it.
I've made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it?
I'll begin in broad strokes, just like my friend Keynes. His theory conceals the mechanics of change. That simple equation, too much aggregation, ignores human action and motivation. Yet it continues as a justification for bailouts, payoffs by poles with machinations. You provide them with cover to sell us a free lunch. Then all that we're left with is debt and a bunch. If you're living high on that cheap credit hog, don't look for a cure from the hair of the dog. Real savings come first if you want to invest. The market coordinates time with interest. Your focus on spending is pushing on thread. In the long run, my friend, it's your theory that's dead. So sorry there, buddy, if that sounds like invective. Prepare to get schooled in my Austrian perspective. We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Label interest rates.
It's the animal spirits.
The place you should study isn't the bust. It's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds. But it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real. Consumption's up too. And the grasping for resources reveals there's too few. So the boom turns to bust as the interest rates rise. For the cost of production, price signals relies. The boom was a binge. That's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they'd thrive. You must save to invest. Don't use the printing press, or a bust will surely follow. An economy depressed. Your so-called stimulus will make things worse. Just more of the same. More incentives perverse. And that credit crunch ain't a liquidity trap. Just a broke banking system. I'm done. That's a wrap. We've been going back and forth for a century.
I want to steer markets.
I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Label interest rates.
It's the animal spirits. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist.
The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design.
They've been going back and forth for a century.